Mettons qu'on imagine le pire scénario possible pour quiconque gère une boutique en ligne aujourd'hui.
Oh, il y en a plusieurs, mais vas-y.
Ben, genre une commande urgente, une vente à forte marge, le client américain est super impatient, il a même payé un supplément pour une livraison le lendemain.
Jusque-là, c'est le quotidien du commerce de détail.
Exact. Fait que le paquet quitte l'entrepôt, tout a l'air parfait, mais là, soudainement, le colis reste bloqué dans un entrepôt douanier super sombre.
Oh, le fameux trou noir logistique.
Ouais. Et ça, pendant genre 60 jours. La marchandise est carrément prise en otage. Puis le pire, c'est que c'est simplement parce qu'il manque un code numérique invisible dans le transfert de données.
C'est un cauchemar total. Et le pire, c'est que ce cauchemar-là ne relève pas de la fiction.
Vraiment pas. Parce que dans exactement 5 jours, ça va être la nouvelle normalité. On est le 3 juillet 2026, puis l'horloge tourne à une vitesse folle.
C'est clair. Le 8 juillet, c'est le grand jour.
Le 8 juillet, la Commission américaine de sécurité des produits de consommation, la CPSC, dresse un tout nouveau mur numérique aux frontières américaines avec son exigence de déclaration électronique, le fameux e-filing.
Un vrai séisme logistique.
C'est le mot. Fait que l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre l'ampleur de ce séisme-là, puis d'analyser avec nos sources comment les marques peuvent éviter de voir leurs expéditions saisies. Je suis fascinée par l'impact que ça va avoir.
Ben, l'enjeu est colossal. Si on décortique le modèle d'affaires de la vente directe aux consommateurs, ce qu'on appelle communément le DTC, tout repose sur deux piliers inébranlables.
La rapidité puis l'expérience client.
Exactement. Quand une commande est validée sur une boutique, l'attente implicite du client, c'est une fluidité totale, de l'entrepôt jusqu'à son paillasson.
On veut pas de friction.
Aucune. Or, cette nouvelle réglementation vient complètement pulvériser cette fluidité-là si on n'est pas préparé. La conformité sécuritaire, c'était souvent une réflexion après coup, genre un document PDF qu'on gardait dans un tiroir au cas où.
Ouais, au cas où un douanier le demanderait.
C'est ça. Mais là, ça passe d'un document passif, un prérequis technologique absolu, puis surtout automatisé, juste pour traverser la frontière.
Mais là, on peut se demander pourquoi la CPSC sévit avec une telle force de frappe en ce moment. Qu'est-ce qui justifie de mettre en place un barrage aussi restrictif du jour au lendemain?
Ben, c'est avant tout une question de volume, puis d'une grosse perte de contrôle. Historiquement, le commerce international, ça fonctionnait par conteneurs maritimes massifs.
Des gros bateaux.
Ouais. Fait que les agents des douanes pouvaient cibler un contenant suspect, l'ouvrir, puis vérifier les certificats de conformité de milliers de produits d'un seul coup. C'est un système de vérification aléatoire, mais très réactif.
Sauf qu'avec l'explosion du commerce en ligne transfrontalier, le modèle a complètement changé, tu sais.
Complètement. C'est plus des gros conteneurs, ce sont des millions de petits colis individuels, souvent expédiés par avion directement depuis des usines à l'étranger. Ça bombarde littéralement la frontière américaine chaque jour.
C'est vraiment l'effet du dropshipping puis de la montée fulgurante des plateformes de fast fashion ou d'électronique à bas prix.
Exact. Les douanes n'ont tout simplement plus l'effectif physique pour ouvrir chaque petit sac d'expédition. C'est impossible.
Fait que ça passait tout droit.
Le résultat de ce volume incontrôlable, c'est ça. Des produits dangereux passaient entre les mailles du filet. On a vu une augmentation alarmante de jouets toxiques qui arrivaient dans les maisons américaines ou des batteries au lithium bon marché qui prenaient carrément feu dans les salons.
Ah, ça, c'est peur, hein?
Pour le gouvernement américain, le système passif était devenu complètement aveugle, puis obsolète. La seule façon de reprendre le contrôle sans paralyser le commerce mondial, c'était d'automatiser la vérification.
C'est pour ça que la nouvelle règle s'intègre directement au système ACE, n'est-ce pas?
Oui, exactement. L'environnement commercial automatisé des douanes.
Ouais, exactement. Concrètement, le processus devient purement systémique. J'aime bien l'analogie pour comprendre l'ancien modèle de conformité. C'était un peu comme un billet de retard à l'école secondaire. L'élève l'avait froissé dans le fond de son sac à dos, puis il le sortait juste si un professeur sévère exigeait de le voir.
C'est une excellente image.
Mais là, le nouveau système, c'est l'équivalent d'un tourniquet de métro hyper technologique. Le colis arrive sur le convoyeur, le système scanne le code du tarif douanier harmonisé, le fameux code HTS, puis si le produit est réglementé,
Le tourniquet exige instantanément un transfert de données structuré.
voilà. Sans ce transfert de données au millième de seconde, les portes physiques refusent tout simplement de s'ouvrir. Le passage est bloqué d'office.
Il faut savoir, ce tourniquet automatisé-là cible les expéditions commerciales à travers absolument toutes les voies de transit, que ce soit maritime, aérien ou terrestre.
Ça pardonne pas.
Non. Ce que ça impose à l'industrie, c'est que la conformité doit être encodée profondément dans le pipeline d'expédition, vraiment en amont de l'arrivée physique du camion à la frontière.
Sachant que ce filet numérique est maintenant déployé, quels sont les produits qui vont déclencher cette alarme douanière? Parce qu'on imagine qu'il y a des catégories plus à risque que d'autres.
L'analyse des documents de la CPSC divise les cibles en deux grandes catégories. La première, bien, c'est la plus évidente, c'est la niche pour enfants.
Logique.
Tout produit conçu destiné principalement aux enfants de 12 ans et moins nécessite un CPC. C'est un certificat pour produits d'enfants. C'est de loin la catégorie la plus scrutée pour des raisons évidentes de santé publique.
Fait qu'on parle des peluches, des jeux éducatifs.
Oui, mais aussi tout l'écosystème de la chambre de bébé, les berceaux, les moniteurs, les chaises hautes, et surtout les vêtements de nuit pour enfants qui doivent absolument être ignifuges.
Jusque-là, la logique est implacable. Sécuriser les lits de bébé puis les jouets, ça va de soi. Mais nos sources parlent d'une deuxième catégorie de produits, la niche d'usage général qui requiert un certificat GCC.
C'est là que beaucoup de vendeurs risquent d'avoir une mauvaise surprise, en effet.
Ouais. Qu'est-ce que ça couvre exactement?
Ça couvre des produits destinés aux adultes, mais qui sont soumis à des règles de sécurité fédérale très spécifiques. On y retrouve l'électronique de consommation courante, genre les blocs d'alimentation ou les fameuses batteries au lithium.
OK.
Mais on y trouve aussi les articles de maison, des matelas, des casques de vélo et même, écoute bien, des vêtements de tous les jours pour adultes.
Attends un instant. Des vêtements pour adultes?
Oui, qui doivent répondre à des normes strictes d'inflammabilité des tissus.
Il est tout à fait logique de surveiller de près l'importation de trottinettes électriques pour éviter les incendies. Mais bloquer la frontière pour un simple T-shirt en coton pour adultes, n'est-ce pas un peu excessif comme niveau de surveillance?
Ça peut sembler très bureaucratique à première vue, mais il faut regarder la mécanique derrière les normes de sécurité textile. La CPSC applique la loi sur l'inflammabilité des tissus, qui date de l'époque où certains matériaux synthétiques pouvaient s'embraser presque instantanément.
Ah, je vois le genre.
Aujourd'hui, avec la prolifération de vêtements ultra bon marché, fabriqués avec des mélanges de fibres de qualité douteuse, le risque de brûlure grave est bien réel.
Mais comment la douane sait ça juste en scannant une boîte?
C'est ça le problème. Le système douanier automatisé n'a pas d'yeux. Il ne peut pas toucher le tissu pour savoir s'il est sécuritaire. Tout ce qu'il voit, c'est un code douanier qui dit « vêtements pour adultes ».
Fait que ça déclenche la demande.
Dès que ce code est lu, l'algorithme exige la preuve certifiée que ce lot spécifique de tissu a passé le test d'inflammabilité. Sans cette preuve, le T-shirt est traité comme un danger potentiel. Point final.
C'est un méchant casse-tête opérationnel. Je veux dire, un marchand qui vend des centaines de variations de vêtements doit s'y retrouver. D'ailleurs, les documents sources font état d'un outil mis en place par la CPSC pour aider à naviguer là-dedans, le Regulatory Robot.
Ah, c'est un point névralgique, la préparation. Le Regulatory Robot, c'est pas juste un petit feuillet d'informations, là. C'est un arbre de décision interactif hyper poussé.
Pratique.
Vraiment. Parce que les réglementations sont devenues beaucoup trop labyrinthiques pour qu'un humain puisse toutes les mémoriser. En entrant les caractéristiques précises d'un produit dans ce robot, ça génère une liste exacte des obligations de test.
C'est donc l'étape incontournable pour éviter d'expédier un article en croyant, à tort, qu'il est exempté.
Exactement. Ce qui nous amène directement au cœur du problème logistique.
Oui, parce que si le produit nécessite un certificat, que doit-on fournir exactement au système AC lors du passage à la douane, le fameux transfert de données?
Bien, le fardeau de la preuve est lourd. La réglementation exige que l'importateur fournisse 7 éléments de données obligatoires.
7?
7. Structurés électroniquement, et ça pour chaque produit.
Mon Dieu. OK, on fait la liste.
Allons-y. Premièrement, l'identifiant du produit. Typiquement, un code SKU ou un code barre UPC.
C'est la base, ça veut.
Deuxièmement, les citations de sécurité, c'est-à-dire le code exact de la norme fédérale, comme par exemple la section 16 CFR pour l'inflammabilité dont on parlait.
D'accord.
Troisièmement, des détails de fabrication d'une grande précision. Il faut le mois, l'année, la ville, la province ou l'État et le pays de fabrication de ce lot précis.
Juste ça, c'est déjà une quantité de données impressionnante à gérer. Puis on n'est même pas à la moitié.
Attends. C'est pas fini. Quatrièmement, les dossiers de test. Il faut fournir la date exacte et le lieu géographique où ce produit spécifique a été testé.
OK.
Cinquièmement, et c'est souvent là que ça accroche vraiment, ce sont les accréditations du laboratoire indépendant. Il ne suffit pas de donner un nom. Il faut l'adresse physique complète du laboratoire, un courriel de contact et un numéro de téléphone valide. Sixièmement, les coordonnées de la personne au sein de l'entreprise qui agit comme gardien des dossiers de tests bruts.
Fait qu'il faut un responsable attitré.
Oui. Et septièmement, les informations corporatives complètent l'entité qui émet le certificat.
Exiger l'adresse physique complète et le numéro de téléphone du laboratoire pour chaque expédition individuelle, hein? Mais pourquoi un tel niveau de granularité? C'est pratiquement une enquête policière à chaque colis.
La CQSC a conçu ce niveau d'exigence pour combattre un fléau très, très précis. Les faux certificats de conformité générés pour des usines douteuses.
Ah, les fameux faux documents.
Exact. Par le passé, un marchand pouvait juste présenter un PDF contenant le nombre d'un laboratoire inventé de toutes pièces, puis ça passait. En forçant la transmission électronique de l'adresse physique puis des coordonnées, le système douanier peut recouper ces infos-là en temps réel avec sa propre base de données des laboratoires certifiés.
Fait que si ça marche pas.
Si l'adresse ne correspond pas à un laboratoire approuvé, boum, l'alerte est déclenchée.
Mais sur le plan opérationnel, rassembler et transmettre de manière infaillible ces 7 points de données ultra spécifiques. Puis ça, pour chaque variation de couleur d'un T-shirt, lors de chaque expédition individuelle, c'est une recette parfaite pour l'erreur humaine.
Totalement. Je veux dire, la moindre faute de frappe dans l'adresse du laboratoire, le moindre bug de synchronisation entre le logiciel d'inventaire puis le courtier en douane, et c'est le blocage immédiat. Il faut comprendre que les conséquences d'un blocage vont bien au-delà d'un simple petit retard. Le système génère une retenue immédiate par la CPSC. Et selon les documents qu'on a analysés, cette investigation peut s'étirer jusqu'à 60 jours.
60 jours? C'est aberrant. Dans le monde du magasinage en ligne d'aujourd'hui, l'attente se calcule en heures. Une livraison repoussée de 2 mois, c'est pire qu'une vente perdue. C'est la destruction pure et simple de la réputation de la marque.
C'est ça. Le premier maillon qui cède, c'est inévitablement la satisfaction client. Les demandes de remboursement pleuvent, le service à la clientèle est submergé, puis les avis d'une seule étoile viennent plomber le taux de conversion.
C'est la spirale infernale.
Oui, mais le véritable danger, celui qui donne vraiment froid dans le dos aux marchands, c'est l'impact algorithmique.
C'est vrai que sur ces plateformes-là, l'algorithme est impitoyable. Un retard douanier ne fait pas que frustrer un seul client dans son point. Faut comprendre la mécanique derrière ces places de marché.
Sur des réseaux comme le Merchant Fulfill Network d'Amazon ou sur Walmart ou Etsy, la visibilité d'un produit est directement liée à une métrique qu'on appelle l'accord de niveau de service, le SLA de livraison.
Le fameux pourcentage de livraison à temps.
Exact. Si une poignée de colis reste coincée à la frontière, l'algorithme détecte instantanément une chute drastique de ces métriques-là. La sanction est automatisée et elle est brutale.
Perte de la fameuse buy box.
Perte de la buy box, chute dans les bas-fonds des résultats de recherche, voire la suspension ou la suppression complète du compte ou du catalogue de produits. La vitrine numérique devient invisible du jour au lendemain.
Puis ça, c'est sans compter la facture salée qui accompagne ce désastre algorithmique. Parce qu'un colis bloqué, ça accumule des frais d'entreposage sous douane, des frais d'inspection physique par les agents.
Ah oui, ça monte vite.
Puis si, au bout de 60 jours, le marchand n'arrive toujours pas à fournir les données valides du laboratoire, la CPSC ordonne le refus d'entrée.
Et là, c'est la cerise sur le sundae.
L'entreprise doit débourser de sa propre poche pour faire détruire la marchandise à la frontière ou payer le transport de retour. C'est une hémorragie financière.
Et c'est pour ça que sans une méthode de contournement, le volume de données requis à chaque transaction ferait complètement s'effondrer l'infrastructure douanière nord-américaine dès la première semaine d'application.
Ce qui nous amène directement à l'urgence de la situation puis à la solution miracle. S'il est impossible de gérer manuellement 7 champs de données complexes pour chaque colis, il doit exister une voie rapide. Les sources parlent du registre des produits de la CPSC. En quoi ça consiste, ce registre infonuagique-là?
Le registre de la CPSC, c'est vraiment la clé de voûte pour survivre à cette réglementation. C'est une plateforme gouvernementale infonuagique où les marchands vont faire le gros du travail en amont.
OK.
L'approche consiste à précharger l'entièreté de son catalogue de produits avec toutes les données de laboratoire, les dates de fabrication, les adresses, direct dans ce système centralisé. Et ça, bien avant qu'un client ne clique sur « Acheter ».
C'est brillant.
Une fois ce travail d'intégration complété, le système valide les informations et génère 2 codes primordiaux, un identifiant de certificateur lié à l'entreprise puis un identifiant de certificat unique pour le produit.
Honnêtement, en lisant ça, on s'entend pour dire que ça ressemble énormément au programme de voyageurs de confiance Nexus qu'on utilise dans les aéroports.
Oui, c'est la comparaison parfaite.
Au lieu de se pointer devant un agent des douanes avec ses preuves d'adresse, ses relevés bancaires, de subir un long interrogatoire puis de fouiller dans ses papiers, bien, on fait tout le processus de vérification de manière proactive.
Exact.
On est approuvé, on reçoit une carte avec un code, puis ensuite on passe par la voie rapide en scannant simplement son œil ou sa carte.
Le principe est identique. Et tout comme avec le programme Nexus, le privilège de passer la frontière sans friction exige une transparence totale et documentée en amont. C'est ce que la CPSC appelle la méthode de dépôt de référence ou reference filing.
Reference filing, OK.
Et c'est là que la magie opérationnelle s'opère. Quand le colis arrive physiquement à la douane, le pipeline de données n'a plus besoin de cracher les 7 éléments de données complexes. Le système d'expédition ne transmet plus que 3 petites informations.
Juste 3?
Juste 3. L'identifiant du produit, l'identifiant du certificateur et l'identificateur du certificat.
Ah! Fait que l'environnement commercial automatisé, le système AC, n'a qu'à piger dans le registre de la CPSC avec ces 3 clés-là.
C'est en plein ça. Le système ACE interroge le registre infonuagique en quelques millisecondes via une interface de programmation, une API. Il valide que les données de sécurité complètes existent, qu'elles sont conformes en arrière-plan et la porte du tourniquet numérique s'ouvre instantanément.
Ça allège de manière drastique le poids des transferts de données quotidiens.
Énormément.
La théorie est brillante, mais en pratique, le 8 juillet, c'est dans 5 jours. On est le 3 juillet. Le temps presse terriblement. Nos sources mentionnent un plan de match très pragmatique développé par ClickShip pour implémenter cette voie rapide. C'est quoi la marche à suivre, concrètement, pour une entreprise qui réalise aujourd'hui qu'elle doit se conformer d'urgence à CE?
Le guide ClickShip propose une méthode de triage en 5 étapes. C'est vraiment conçu pour limiter les dégâts immédiats. La première étape, c'est l'audit.
L'audit du catalogue.
Ouais. Il faut cartographier l'inventaire en utilisant les codes HTS pour séparer ce qui nécessite un certificat de ce qui en est exempté. Et pour ça, il faut s'appuyer sur le fameux Regulatory Robot dont on a parlé.
Ça prend du temps, mais c'est faisable. Ensuite?
Ensuite, la deuxième étape, et c'est sans doute la plus ardue en termes de délai, c'est la centralisation des données de conformité.
Oh boy!
Rassembler la paperasse auprès d'usines situées à l'autre bout du monde.
Bonne chance.
Exact. Obtenir des copies de rapports de laboratoire indépendants au format numérique de la part de sous-traitants qui ne sont pas toujours super réactifs. C'est un goulot d'étranglement majeur. Surtout à 5 jours de l'échéance.
C'est le plus grand défi pratique. Sans ces données brutes, impossible de passer à la troisième étape, qui consiste à créer le compte sur le registre de la CPSC et à préenregistrer les produits.
Son manque de temps, c'est de concentrer ses efforts sur la fameuse loi de Pareto, le 20 % des produits qui génèrent 80 % des revenus.
C'est très intelligent.
Il faut d'abord sécuriser les meilleurs vendeurs dans le registre pour s'assurer que l'artère principale de l'entreprise continue de couler après le 8 juillet.
L'étape 4, selon le guide, touche à l'architecture informatique. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les identifiants sur le registre de la CPSC, il faut que le système d'expédition d'entreprise ou son courtier en douane soit capable de récupérer ces 3 nouveaux codes puis de les injecter automatiquement dans la documentation douanière de chaque colis.
L'alignement des canaux de données est crucial. Si le logiciel de traitement des commandes n'envoie pas les identifiants au courtier de manière automatisée, tout le travail qu'on a fait en amont ne sert absolument à rien.
Ça bloque pareil.
Et ça nous amène à la 5e étape du plan ZER, le programme de test volontaire de la CPSC.
OK, c'est quoi ça?
C'est un environnement de type bac à sable, un sandbox, qui permet d'envoyer des données fictives ou des tests à faible risque pour vérifier si la connexion API avec le système AC fonctionne correctement, et ce, sans risquer de sanctions réelles.
Sauf que, et c'est là que le bad bliss, on est le 3 juillet. Le guide parle de ce programme de test comme d'une étape de validation. Mais dans la réalité temporelle où l'on se trouve, la fenêtre pour effectuer ces essais-là, en toute sécurité, s'est pratiquement évaporée.
Ah, et fermée, on s'entend.
L'idée de peaufiner son intégration informatique tranquillement, c'est plus viable. À partir du 8 juillet, c'est sans filet. Toute erreur de transmission donnée se fera en conditions réelles, avec des colis bloqués puis de l'argent perdu à la clé.
Le conseil est sévère, mais il est réaliste. Le luxe du temps a totalement disparu. Pour beaucoup de marchands en ligne, les premières semaines suivant le 8 juillet risquent de se transformer en un processus d'essai-erreur extrêmement coûteux où les vraies expéditions serviront de test en temps réel.
Ouf! Si on prend un peu de recul sur cette réglementation monumentale, quelle est la conclusion inévitable qui ressort de cette analyse approfondie de nos sources?
La dynamique du commerce international vient de subir une mutation profonde. Le succès d'une boutique, ça dépend plus uniquement d'une bonne stratégie marketing ou de la qualité physique d'un produit.
Non, clairement plus.
Aujourd'hui, maîtriser la logistique de ses données est devenu aussi critique que de gérer sa chaîne d'approvisionnement physique. Les autorités douanières ne regardent plus la boîte en carton, elles lisent le code.
Pis c'est fou quand on y pense.
La donnée n'accompagne plus le produit, elle est devenue une condition sine qua non de son existence sur le marché américain.
La donnée devient le produit lui-même lors du passage aux douanes, dans le fond. Autrement dit, un produit parfait avec des données défectueuses n'a absolument aucune valeur marchande puisqu'il n'atteindra jamais le client.
Exactement. Zéro valeur.
D'ailleurs, pour clore notre exploration, l'ampleur de ce que les États-Unis accomplissent avec l'e-filing ouvre la porte à une réflexion beaucoup plus vaste. Ils ont réussi à implanter un contrôle sécuritaire automatisé à l'échelle du colis individuel en temps réel.
C'est une prouesse technologique, faut l'avouer.
Absolument. Mais si ce système centralisé s'avère efficace pour bloquer les produits non conformes sans tuer l'économie, on peut se demander combien de temps ça va prendre avant que l'Union européenne, le Canada ou d'autres grandes puissances économiques adoptent des architectures infonuagiques identiques et interconnectées.
C'est juste une question de temps, à mon avis.
Il n'est pas insensé d'imaginer que l'on fonce tout droit vers l'ère d'un passeport mondial de produits universels, une empreinte numérique standardisée et inviolable qui suivrait chaque objet, depuis la chaîne de montage d'une usine asiatique à travers les laboratoires de tests jusqu'aux douanes internationales pour finalement aboutir dans les mains du consommateur final.
Une transparence absolue.
Et implacable. Non plus dictée par la confiance aveugle, mais imposée par le code informatique. C'est une perspective franchement fascinante.